La question du jour.
Allez, rentrée des classes 2.0. Il y a 2 ans, François Hollande lançait son plan pour le numérique à l'école.
Je l'annonce ici, il va y avoir un grand plan numérique pour l'école dans la République. Bien sûr que nous aurons besoin des collectivités locales pour accompagner ce processus. C'est déjà fait. Mais l'État y mettra aussi tous ses moyens pour former les enseignants, pour assurer partout l'arrivée du très haut débit et pour aussi que les éditeurs puissent, les éditeurs de livres, mettre les contenus sous forme numérique, de manière à ce que chacun puisse y accéder.
Des propos en apparence consensuels, sauf pour vous, Philippe Biwix, bonjour.
Bonjour.
Vous avez beau être centralien, pour vous, l'écran est un mauvais prof. Expliquez-nous pourquoi.
Effectivement, le numérique à l'école est porteur de nombreuses promesses pédagogiques. On voit d'ailleurs qu'il est censé résoudre tous les problèmes de la crise de l'école aujourd'hui, c'est-à-dire le déficit de l'attention, le décrochage scolaire, les inégalités. Quand on creuse un peu, malheureusement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de corrélation entre la numérisation des systèmes scolaires et les résultats, les performances. Alors l'OCDE, qu'on ne peut pas vraiment accuser de technophobie, a sorti un rapport en 2015 sur les résultats PISA 2012, qui font un peu la pluie et le beau temps sur la comparaison des systèmes scolaires dans les différents pays de l'OCDE. Et on voit que finalement, plus on expose les enfants à des écrans, et moins ils comprennent ce qu'il y a écrit dessus.
Comment expliquer cela, puisque là aussi, c'est quand même assez contre-intuitif. On aurait tendance à penser le contraire. Il y a quand même un article qui a en quelque sorte lancé le débat. Il a été publié dans le New York Times, il a fait couler beaucoup d'encre, où on voyait que les patrons de la Silicon Valley ne voulaient pas que leurs enfants aient des tablettes.
Alors effectivement, il y a derrière l'anecdote, effectivement, ça pose cette question de savoir l'intérêt du numérique. Alors on peut effectivement démonter chacun des arguments qui est extrêmement fragile. On pourrait parler d'idéologie. La première chose, c'est que c'est censé, reconcentrer les élèves ou ramener de l'attention. Alors, c'est vrai qu'on vit une crise de l'attention, et c'est sans doute d'ailleurs lié à la pratique du numérique à la maison. On est dans la société du multitâche, donc on fait un peu de tout et donc on est moins concentré. Mais en fait, quand on regarde ça, la question, c'est qu'on confond la motivation pour l'outil et la motivation pour le contenu. Alors, un autre argument, c'est la question des inégalités. C'est-à-dire que ça permettrait de lutter contre les inégalités. On voit qu'aujourd'hui, en réalité, la fracture numérique n'existe plus. Elle s'est même inversée. C'est-à-dire que les enfants des milieux défavorisés sont équipés plus tôt et sont équipés plus tôt dans leur chambre que les enfants des milieux favorisés. Et donc ça, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque du temps d'écran supplémentaire. L'école numérique, en fait, justifie légitime le temps d'écran, c'est-à-dire qu'on va devoir se reconnecter après la classe pour aller chercher ses devoirs sur Qualitex numérique, etc. Et donc, qui dit temps d'écran dit nombreux risques sanitaires et dit risque d'addiction, de temps de sommeil, décrochage scolaire, etc.
Par ailleurs, le numérique à l'école peut être le cheval de Troie d'un certain nombre de multinationales. Le partenariat, par exemple, entre l'éducation nationale et Microsoft avait été sévèrement critiqué à juste titre, selon vous, Philippe Biwix?
Évidemment, puisqu'on est dans une logique, en fait, de partenariat presque à sens unique. C'est-à-dire que, effectivement, Microsoft, qui fait des milliards de bénéfices, va mettre quelques millions sur la table pour former les professeurs ou donner accès à son cloud et à quelques ressources logicielles. Et il va se retrouver finalement avec des millions de clients potentiels, prescripteurs eux-mêmes possibles. Et donc évidemment, si Satya Nadella, le CEO de Microsoft, qui fait 86 milliards de dollars de chiffre d'affaires, se déplace pour aller voir le président de la République et signe un partenariat avec le ministère, c'est pour des bonnes raisons et qu'il espère un retour sur investissement qui sera fait avec l'impôt de nos concitoyens.
Il peut y avoir en tout cas un intérêt pour l'éducation nationale qui cherche à comprimer les coûts, c'est de remplacer des profs par des écrans et vous montrer dans votre ouvrage Philippe Biwix le désastre de l'école numérique, que la présence d'un prof est évidemment irremplaçable.
Alors oui, pour l'instant, c'est ce que disent aussi les partisans de l'école numérique, c'est-à-dire que quand on regarde les rapports qui s'enchaînent, on a pour l'instant un rôle de professeur qui est magnifié, c'est-à-dire que les professeurs vont se transformer, on parle d'ingénieurs pédagogiques, de catalyseurs d'intelligence collective, donc c'est des choses formidables, mais évidemment, on voit arriver en filigrane bien d'autres choses, on parle d'un possible rééquilibrage ou d'une évolution vers un mode mixte, c'est-à-dire passer du mode présentiel. Alors on n'hésite pas dans les néologismes, dans les rapports
présentiel,
sur l'école numérique.
On va dire ce que c'est d'avoir un vrai prof, quoi.
Voilà.
Donc on Parce qu'il peut y avoir des écoles avec des vrais profs à l'intérieur.
Voilà, donc là aujourd'hui on est dans le présentiel et puis on va évoluer à terme vers un équilibre entre le présentiel et l'e-learning, c'est-à-dire qu'en gros bah, on mettra les élèves devant des écrans et puis le développement de disons à la fois de la réalité virtuelle ou réalité augmentée qui est pas seulement pour les Pokémon, hein. Mais qui permettra peut-être de chausser un casque de réalité virtuelle dans le futur et puis d'assister à des cours en réalité augmentée. Et le développement des capacités de calcul et de l'intelligence artificielle fait qu'on peut tout à fait imaginer des e-professeurs. Alors, c'est pas pour demain matin, mais c'est sans doute dans quelques décennies. Et c'est déjà ce qu'on est en train d'installer, les équipements et les pratiques qui vont permettre effectivement ça.
Donc si l'on se résume, Philippe Biwix, l'écran à l'école, c'est une mythologie de l'époque, une mythologie qui arrange beaucoup de monde, les industriels, l'éducation nationale, sauf finalement les parents et les profs.
Alors ce qui est assez formidable, c'est que c'est effectivement cette fascination technologique, hein, cette course en avant, elle n'est pas nouvelle. Hein. En fait, on peut l'inscrire dans plus d'un siècle d'utopie technopédagogique. Hein. Alors ça démarre avec l'ancêtre de PowerPoint, les lanternes magiques au 19e siècle, hein, où les projections lumineuses vont pouvoir concentrer les élèves. Et puis on continue avec le cinéma, la radio, la télévision, les machines à enseigner. Et effectivement, on a toujours été déçus par les promesses qui étaient faites en premier lieu par les fabricants, Edison hier, Microsoft aujourd'hui.
L'écran numérique, une promesse non tenue, selon vous, Philippe Biwix, vous le dites dans un livre publié avec Karine Mauvy, Le désastre de l'école numérique, c'est publié au Seuil.